Oh les filles.
Oh les filles.
Oh les filles.
Oh les filles, une chronique féministe des radios associatives des Hauts-de-France.
Oh les filles.
Premier épisode des chroniques « Oh les filles » autour de la thématique « Être femme en société ».
Est-ce que vous pensez que la condition de la femme a évolué depuis une trentaine d'années ?
Au moins, elles osent revendiquer un petit peu davantage quand elles sont maltraitées ou quand elles ne sont pas considérées à bon escient. Ne fût-ce que de ce point de vue-là, je trouve qu'elle a effectivement évolué. Avec tout le mouvement MeToo, auparavant, les femmes se taisaient beaucoup, par peur du « qu'en dira-t-on ?». Et puis finalement, il a suffi qu'une parle pour que tout explose d'un coup. Je crois qu'elles revendiquent aussi plus leur place au niveau du travail. Donc elles veulent être considérées à l'égal de l'homme, avoir le même salaire, c'est pas encore tout à fait acquis, mais enfin c'est en bonne voie quand même, enfin on espère, voilà.
Donc vous êtes plutôt optimiste de ce côté-là ?
Oui, moi absolument, oui, je suis optimiste, oui, il faut continuer à se battre évidemment.
Moi je suis pas très âgée, donc je sais pas trop, j'ai pas trop de comparatifs en fait pour savoir comment est-ce que c'était avant, mais moi je suis pas forcément certaine que ça aille non plus dans le bon sens, ou alors c'est vraiment, moi je trouve que c'est très très lent. Et souvent quand on dit qu'il y a des avancées, etc., en fait, je trouve que c'est un peu comme de la vitrine. Je ne suis pas certaine qu'il y a vraiment de pures avancées, etc. Parce que par exemple, les inégalités salariales, tout ça, ça fait quand même une paire d'années que c'est le cas. Et je ne suis pas certaine que ça avancera super vite. Déjà, on n'a qu'à regarder le nombre de femmes, etc., impliquées dans la vie politique, machin. Je ne suis pas très optimiste sur ce point-là. Même comment s'habiller, comment se comporter en société aussi, beaucoup de choses encore qui sont dictées par la société.
Oui. Écoutez, oui, pour eux, alors ça dépend du milieu d'abord. Parce que vous avez quand même des milieux, malheureusement, je dirais que l'éducation n'est pas au top. Donc les femmes n'ont même pas conscience qu'elles ne sont pas considérées comme des êtres normaux à égalité avec les hommes. Donc c'est du boulot, c'est du boulot, beaucoup de boulot. Mais c'est une question d'éducation, de culture aussi. Et malheureusement, il y a des milieux qui ne s'ouvrent pas à ça.
Le sexisme est une représentation du monde fondée sur l'inégalité entre les femmes et les hommes, considérée comme naturelle. Il est la source de tous les stéréotypes de genre. Il engendre non seulement des inégalités, mais aussi des violences sexistes et sexuelles des plus anodines en apparence aux plus graves. Depuis la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a la mission d'élaborer un état des lieux du sexisme en France. Ce baromètre sexisme permet de rendre compte des ressentis de l'opinion face aux inégalités de genre en restituant le vécu des femmes. Comprenez quelles situations sexistes, stéréotypes ou clichés sont jugés acceptables par la société. L'édition 2024 du baromètre sexisme a choisi d'étudier les racines de celui-ci. Il en vient à la conclusion qu'il existe une véritable éducation au sexisme qui en fait une construction sociale.
Moi, j'ai l'impression que la société est adaptée à un monde masculin et pas à un monde féminin. Et du coup, le moindre événement que peut avoir une femme dans la société, il va falloir qu'elle s'y adapte elle et pas l'inverse. Que ce soit, les transports, son travail, comment elle s'habille, comment elle se déplace, avec qui elle parle, qu'est-ce qu'elle consomme, etc. Tout va être pensé de façon masculine et pas de façon féminine. Et du coup, forcément, nous on s'adapte, on est les pros de l'adaptation.
Les règles ont été instaurées par des hommes, je trouve, il y a longtemps. Et comme ils repartent toujours sur les mêmes bases, forcément, ce sont eux qui décident, quoi, qui ont raison à la base.
Tu mènes la danse. Mais ils ne sont pas très bons danseurs.
Je trouve que la femme a pris quand même beaucoup de pouvoir, pas de pouvoir, mais la remontée dans l'estime des gens. Voilà.
Moi, j'observe qu'il y a quand même de plus en plus de jeunes filles qui se détachent du regard de la société. Alors, à la fois, elles se détachent moins par les réseaux sociaux parce qu'elles vont passer du temps à poster des vidéos, des selfies, etc. Et à la fois, elles se détachent quand même de l'image qu'on peut avoir sur elles parce qu'elles choisissent de ne pas s'épiler. Elles vont choisir de s'habiller comme elles ont envie, de revendiquer plus un style personnel que ce qu'on attend d'elles au niveau de la manière de s'habiller ou de se comporter. Donc ça, c'est plutôt positif, je trouve, dans l'évolution.
Oui, je suis plutôt d'accord. Je pense que si on compare avec nos grands-mères ou nos mères, on a quand même plus de liberté dans le travail, dans la vie personnelle et dans la société en général. Mais c'est vrai qu'il y a un autre penchant, c'est que là où on avait une obligation d'être mère, d'être silencieuse, de travailler, etc., maintenant il y a cette obligation à la sexualisation partout du corps de la femme. Donc il faut être belle, il faut être sexy, mais en même temps il ne faut pas non plus se faire remarquer. Enfin, c'est tout le temps contradictoire et je pense que les jeunes filles arrivent à s'en détacher d'une certaine manière et il y en a d'autres qui tombent dans l'autre penchant, qui du coup vont être ultra sexualisées alors qu'elles n'en ont pas forcément envie, mais parce qu'on leur dit que c'est comme ça qu'elles doivent exister et pas autrement. Là où avant on leur disait tu es mère et tu es discrète pour exister, là on leur dit bah faut être ultra sexualisée, être un objet de désir, évidemment pour l'homme, hein, pas pour la femme.
Moi, je trouve que la difficulté, c'est que qu'on soit d'une génération ou d'une autre, peu importe, l'ancienne ou la nouvelle, il faut répondre à des codes. Et de toute façon, moi, je vois bien quand on est en groupe, si je ne rentre pas dans les codes, de toute façon, d'office, je serai exclue. On ne s'adressera pas à moi, on ne prendra pas en compte mon point de vue, etc. Donc, je trouve que c'est quand même l'homme qui dirige beaucoup de choses, quoi. On a beau, comme dit Annie, c'est sûr qu'on évolue, mais nous, on a une simple. C'est plus simple pour nous, parce que moi, je suis veuve, alors maintenant, je peux m'exprimer par moi-même. Je ne suis plus dépendante d'un point de vue masculin. Et ça, ça joue aussi sur les relations.
En 2024, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes souligne dans son état des lieux que 9 femmes sur 10 ont déclaré avoir déjà personnellement vécu une situation sexiste. Communiquée et assimilée dès l'enfance, dans le foyer et à l'école, puis véhiculée dans l'ensemble de la société, notamment au sein des sphères médiatiques et numériques, le sexisme persiste. Seulement 47% de la population estime qu'il y a des inégalités entre les femmes et les hommes en raison des différences dans leur éducation. Pourtant, quel que soit leur genre et leur génération d'appartenance, les parents ont le sentiment d'avoir éduqué leurs enfants de sexe opposé de façon identique.
Et en même temps, ces codes-là, ils enferment à la fois la femme et l'homme. Parce que finalement, je pense à une entreprise qui vend des vêtements pour enfants tout petits. Je reprends l'exemple qu'on avait partagé l'autre jour. Le t-shirt qui était préparé pour les petits garçons, dessus, il y avait les adjectifs fort, puissant, des choses comme ça. Sur le t-shirt de la petite fille, c'était écrit mignonne, coquine, timide. Et du coup, en fait, finalement, oui, la fille, elle est enfermée dans ces rôles-là. Peut-être le rôle soit belle et tais-toi, mais le garçon, il est aussi enfermé dans t'es obligé d'être fort, t'es obligé d'être puissant, etc. Et finalement, on se retrouve coincé dans ces étiquettes-là, qu'on soit homme ou femme. Et donc, dès finalement la petite enfance, on enferme dans des rôles le garçon et la fille, alors que c'est plutôt comment on accueille ce qui vient pour chacun et comment on invite l'enfant à devenir qui il est. Et aussi bien colère que tristesse peuvent être des émotions aussi bien masculines que féminines. Et pour rebondir aussi sur la question de la sexualité, moi je trouve aussi que cette acceptation homme-femme, elle se fait aussi par toute l'éducation à la sexualité qu'on fait pour les enfants, mais dès le plus jeune âge. Et ça, c'est un autre tabou. Par exemple, on n'ose pas trop évoquer ces sujets-là à la maison, on n'ose pas en parler. Il y a des filles qui ne savent même pas qu'elles vont être réglées, par exemple. Ou alors, quand elles ont leurs règles, il faut qu'elles se cachent. Et du coup, dans la famille, les garçons, ah bah, de toute façon, elle va avoir ses règles, elle est de mauvaise humeur. Alors qu'en fait, non. Enfin, s'il y avait une vraie éducation à la sexualité qui était faite, les garçons n'auraient pas besoin d'aller voir, ou les filles peut-être hein, d'ailleurs, n'auraient pas besoin d'aller voir du porno sur Internet pour comprendre comment ça se passe. Et donc, on pourrait aussi démonter un rapport homme-femme faussé par ce que la société nous donne si on laissait une vraie place à cette éducation-là, que ce soit dans la famille ou à l'école d'ailleurs.
Hein. Je suis grand-mère et arrière-grand-mère. Et j'ai une arrière-petite fille qui a 8 ans. J'ai peur pour elle et je ne sais pas comment la mettre en garde sans l'angoisser. J'ose pas aborder des sujets comme ça, qu'elle va se faire apostropher dans la rue et tout ça. Je ne sais pas le faire parce que j'ai peur de l'angoisser et je voudrais qu'elle reste naturelle. Mais c'est vrai que ça me fait peur.
92% de la population considère que les femmes et les hommes ne sont pas traités de la même manière dans au moins une des sphères de la société, le monde du travail restant perçu comme la sphère la plus inégalitaire.
À la base, déjà, quand on décide de faire des enfants, on oublie de réfléchir sur le fait que c'est l'homme qui a envisagé une carrière et la femme, on ne l'a pas envisagée. Et on n'y pense pas toujours parce qu'on est jeune, finalement. Moi, j'ai eu mes enfants, mon premier à 20 ans, et je trouve que c'était pas l'époque, dans les années 70, où on raisonnait en fonction de carrière féminine. Et encore maintenant, je suis désolée, hein, ça a beau évoluer, les hommes, ils font des croche-pieds aux femmes facilement quand ils voient qu'elles vont monter et puis qu'elles vont diriger quelque chose. C'est encore très, très compliqué. Donc, et ce que j'accepte pas, c'est que également dans les jugements, dans la justice, quand il y a des problèmes au niveau d'un ménage, on défend beaucoup l'homme et c'est souvent la femme qui se retrouve avec les problèmes à régler pour les enfants. Et je trouve que ce n'est pas équitable. Moi, je trouve qu'on est vraiment bloqué. On n'est pas encore allé très, très loin dans l'évolution de la vie de la femme. Hein.
C'est comme les entretiens d'embauche. Quand je discute avec des collègues masculins, ils disent « Mais moi, on ne m'a jamais posé la question des enfants. » Alors que pourtant, je vais quand même devoir me lever la nuit, je vais quand même avoir un congé parental, je vais quand même être fatiguée. Enfin, ok, je ne vais pas accoucher, mais en l'occurrence, quand même, je vais être absent et je vais avoir des enfants malades. Et ils disent « Mais moi, on ne m'a jamais posé la question. » Moi, je n'ai pas d'enfants, mais on pose quand même systématiquement la question.
Oh les filles.
Oh les filles.
Oh les filles.
Oh les filles.
Oh les filles, une série de chroniques réalisées par les radios de la France en partenariat avec la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité entre les femmes et les hommes des Hauts-de-France.
Oh les filles!
À réécouter sur franf.fr.